une histoire qui parte d'une question, une histoire qui tutoie le passé, une histoire qui questionne les documents.
Le temps de l'histoire, le temps des hommes, le temps de la vie sociale, c'est un temps multiple.
C'est à partir de cette étude des structures sociales de la société d'Ancien Régime que je suis, si je puis dire, entré en révolution.
20 minutes d'histoire.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce 22e numéro de 20 minutes d'histoire. Je suis ravi d'enfin vous retrouver à ce micro après ces longues, longues semaines d'absence. Plaisir d'autant plus grand aujourd'hui que nous allons parler d'histoire médiévale, non seulement, mais aussi avec un Normand, puisqu'il s'agit de Franck Thénard-Duvier qui sera notre invité. Je vous le présenterai dans un instant. Avec lui, nous allons nous plonger dans un des éléments les plus connus, mais souvent les moins compris peut-être, de la société du Moyen-Âge. Des romans de Ken Follett aux grandes publications concernant l'architecture médiévale, en passant par les inévitables numéros spéciaux du Point ou du Nouvel Obs. Vous l'aurez sans doute compris, nous allons parler cathédrale aujourd'hui. Images sculptées au seuil des cathédrales, les portails de Rouen, Lyon et Avignon, 13e, 14e siècle. Ainsi s'intitule la thèse de Franck Thénard-Duvivier qu'il vient de publier aux presses universitaires de Rouen et du Havre. Bonjour Franck Thénard-Duvivier.
Bonjour Fabien, bonjour à tous.
Alors, en quelques mots, vous êtes, pour vous présenter, vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire médiévale et vous enseignez actuellement en classe préparatoire au lycée Foriel de Saint-Étienne. Citons parmi les publications que vous avez commises récemment la direction chez Ellipse des les 100 livres en histoire et en géographie pour réussir les concours. Et plus proche de nos préoccupations d'aujourd'hui peut-être, Héros et monstres au musée des antiquités de Rouen, ou encore un article de 2010 qui fut consacré à la question du mal dans la pensée et dans l'imaginaire chrétien. Alors Franck Thénard-Duvivier, je l'ai annoncé dès le début, nous allons parler cathédrale aujourd'hui. Alors commençons donc, si vous le voulez bien, par une question simple. Qu'est-ce qu'une cathédrale ?
Une cathédrale, au sens strict, est bien l'église du diocèse ecclésiastique, l'église de l'évêque, là où se trouve le siège de l'évêque, la cathédrale. Donc c'est la définition la plus courte, la plus simple qu'on puisse donner au terme. Donc il ne faut pas voir dans tout monument de grande ampleur nécessairement une cathédrale. La définition juridique, c'est celle que je viens de donner.
Mais celle que vous n'appliquez pas dans votre livre.
Non, je m'attendais un peu à la question, j'avoue. Ça n'est pas le... Vous savez, hein, quand on publie, il faut toujours avoir un titre un peu accrocheur. Au seuil des cathédrales, d'ailleurs, est repris de la thèse, mais la thèse n'était pas intitulée de la même manière. L'idée de cathédrale, telle que je l'ai utilisée, c'est d'aller un peu au-delà de cette définition juridique. Et je ne l'invente pas, hein, d'autres auteurs l'ont prouvé. Je pense notamment à Peter Courman qui m'a fait le plaisir de la préface de l'ouvrage. Il a montré que l'abbatiale Saint-Ouen de Rouen, donc l'église de l'abbé de Saint-Ouen, était par sa dimension, par son ambition, par son projet architectural, la cathédrale idéale du XIVe siècle français. Donc je compare des monuments qui ont des ambitions comparables. Deux cathédrales, celle de Rouen et celle de Lyon, donc on a aussi un ancrage un peu plus local pour les Lyonnais, et je les compare avec une abbatiale, celle de Saint-Ouen de Rouen, et alors là il est plus difficile de le justifier, mais on y reviendra peut-être, c'est le corpus qui l'a décidé et non pas moi, la chapelle du Palais des Papes à Avignon, donc une chapelle palatiale, là qui n'a rien évidemment de cathédrale.
D'accord. Alors pour aider nos auditeurs à visualiser ces monuments, puisqu'ils ne sont peut-être pas tous rouennais, ni lyonnais, ni avignonnais, la taille de la cathédrale de Rouen, ses dimensions, cathédrale de Saint-Ouen, l'abbatiale Saint-Ouen.
On dépasse les centaines de mètres, donc on est dans des monuments monumentaux. Ce qui est intéressant à l'époque, c'est la concurrence qui se fait en termes de monumentalité. C'est-à-dire que les cathédrales, ça tout le monde le sait, les cathédrales rivalisent en hauteur, notamment jusqu'à ce que certaines en tombent, évidemment. Et dans le cadre de Saint-Ouen, de l'abbatiale de Saint-Ouen et de la cathédrale, la reconstruction de l'abbatiale au XIVe siècle s'est faite avec volontairement quelques mètres de plus en hauteur, quelques mètres de plus en longueur. Il s'agit de faire un peu plus que son voisin immédiat à Rouen, qui est vraiment à quelques centaines de mètres. De l'une, on voit l'autre.
Oui. Donc on est en gros, alors les chiffres je les cite de tête, j'ai pas vérifié, on doit avoir en hauteur sous nef, c'est-à-dire la partie principale de l'église, on doit être un peu moins de 30 pour la cathédrale et un peu plus pour Saint-Ouen, c'est ça.
Je vous fais entièrement confiance.
Je crois que c'est ça. Et ça nous donne une indication en gros des édifices de cette période, des constructions du XIIIe siècle, l'âge d'or du gothique en France.
Oui, et la cathédrale de Rouen est aux dimensions... À quelques détails près en termes d'élévation de clochetons, de flèches qui sont la 19e pour des raisons techniques puisque c'est en fer, donc c'est le 19e bien sûr. Mais pour toutes les parties qui sont en pierre, on est dans les dimensions actuelles.
Alors, ces cathédrales sont monumentales, elles sont au cœur des villes, elles sont au cœur de votre étude. Et pourtant, désespérément dans votre livre presque, on reste au seuil de ces cathédrales, on reste à l'entrée. Pourquoi avoir choisi de rester devant tout simplement la cathédrale et de pas prendre en compte ce qu'il y a dedans? Et c'est l'occasion aussi de nous décrire l'objet de l'étude de votre thèse.
Il y a évidemment plusieurs raisons. Le seuil, vous avez l'air de dire que le seuil est finalement presque une marge ou quelque chose de peu important. Le seuil est primordial.
Évidemment.
Le seuil, c'est l'entrée. C'est un lieu qui est hautement symbolique. C'est un lieu qui est entre, alors si on fait simple et peut-être un peu schématique, entre deux mondes, le sacré et le profane de part et d'autre. Deux mondes qui ne sont pas autant opposés qu'on voudrait bien le dire, deux mondes qui sont complémentaires. Et ce seuil, anthropologiquement, est très intéressant aussi. On sort d'un monde pour pénétrer dans un autre, un monde avec une sacralité qui est propre. Donc du coup, le seuil et tout l'appareil ornemental qui est autour va revêtir une importance symbolique que traduit justement la monumentalité, évidemment. Tout le monde a évidemment en tête un portail au moins de cathédrale, celui de Notre-Dame de Paris ou d'autres. Et après, l'autre intérêt, c'est dans le détail, la sculpture. La sculpture des seuils est évidemment très soignée, pensée. On parle aussi parfois de programme iconographique, donc le seuil est très important. Alors, ça, c'est la réponse pour le seuil. D'un point de vue personnel, moi, je me suis intéressé au seuil pour les images sculptées qui y sont. Et,
oui.
et ce sont elles qui m'ont imposé, en quelque sorte, le sujet d'étude.
Et c'est aussi une façon de se placer pour vous dans le même cadre que l'homme médiéval. Il y a cette question très intéressante que vous posez, mais je ne la retrouve pas. C'est... que voit l'homme médiéval quand il est au seuil de la cathédrale? Il ne voit pas comme nous la petite sculpture, alors qu'on a souvent déplacé, qu'on a pris en photo sous tous les angles. Mmh. Il y a cette idée de voir que la statue qui est à, des dizaines de mètres d'auteur parfois, se placer dans ce contexte-là, ce que vous appelez une étude in situ, dans la réalité de l'objet cathédral.
Là maintenant, heureusement, depuis une décennie ou deux, les travaux d'iconographie ont beaucoup progressé et la dimension spatiale maintenant est largement prise en compte. Et effectivement, notamment les travaux sur le vitrail ont poussé les historiens à cela. Quand on voit le détail des vitrails et la hauteur des vitraux, évidemment, on se pose la question, à quoi bon, quelle utilité, quelle est la perception, quelle est la réception? C'est ça les deux questions. La réception et la perception, c'est une question de point de vue. Donc on peut se poser la même question pour un seuil. Certaines images sculptées sont extrêmement visibles et lisibles. Elles sont dans des endroits privilégiés, c'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple le trumeau. Les portails de cathédrale s'ouvrent généralement avec une double porte et entre les deux vous avez une partie sculptée qui s'appelle le trumeau. Et là, évidemment, que vous rentriez ou sortiez, vous passez par ce lieu. Et vous avez d'autres lieux qui sont moins visibles, quasi invisibles. Alors, les hauteurs, bien sûr, mais plus subtilement parfois, je pense notamment à la cathédrale de Rouen, des revers de contreforts, c'est-à-dire des espèces d'angles morts.
Est-ce qu'il y a un contrefort quand même?
oui, c'est la partie donc maçonnée qui soutient les murs pour permettre une élévation plus haute. Donc des espèces de parties qui sont un peu saillantes sur le parvis de la cathédrale et dans les angles, en hauteur, on trouve aussi des images qui du coup sont peu visibles à l'époque. Moi, pour les voir, il a fallu que je prenne donc un escabeau, un téléobjectif. Je doute que l'homme médiéval prenait ses précautions.
Le seuil est un espace important, l'espace peut-être parfois le plus important, finalement, interface profane, sacrée, quelque part, zone d'échange.
Oh, le plus important reste le cœur, le cœur centre du sacré, je ne voudrais pas détourner non plus
l'espace de rencontre, l'espace de rencontre le plus...
Oui, l'interface, même si le terme a été galvaudé, il est emprunté aux géographes, merci à eux, mais l'interface reste une notion intéressante.
Je vais citer cette phrase quand même, qu'on doit à Guillaume Durand, évêque de Mende. La porte de l'église, c'est le Christ. Et vraiment, il insiste quand même sur cette importance. C'est d'autant plus important qu'on va être d'autant plus vigilant à ce qu'on y met sur ce seuil. Question donc, ces portails racontent des histoires quelque part, sont un peu des récits. Quels sont les thèmes traités au portail des cathédrales que vous avez étudiés ? Pouvez-vous nous donner même un exemple complet de cycle narratif ?
Alors, si vous me permettez auparavant, une précision sur le corpus que j'ai utilisé. J'ai pris en compte donc toutes les images en bas-relief qui sont sculptées donc sur ces portails, une sculpture de faible profondeur. Et ces bas-reliefs sont quadrilobés, donc ils s'inscrivent à l'intérieur d'un double encadrement. Ça sera technique, mais je promis, il n'y en aura plus. Un double encadrement, un rectangle, et à l'intérieur du rectangle, un quadrilobe, donc dont les quatre coins sont en forme de lobe. Voilà. Et ce motif-là, il arrive à un moment, sur des piliers saillants, entre 1280 et 1350, et on n'en a plus après, pour des raisons diverses. Donc j'ai pris l'ensemble de ces images en France. Et partant de là, j'ai pu justement comparer les histoires qui sont sculptées. Donc je n'ai pas fait de choix, j'ai tout pris. Et on trouve une grande diversité de scènes. Des scènes évidemment d'origine biblique, Ancien Testament, Nouveau Testament, un petit peu moins, surtout l'Ancien Testament. Des scènes de vie de saint, donc qui vont raconter la vie de saint Ouen ou de saint Romain, par exemple. Et des scènes qui sont beaucoup plus compliquées après à comprendre, qui montrent une grande diversité, une grande profusion de thèmes et de figures, qui peuvent montrer des animaux fabuleux, des licornes, des centaures, des animaux réels, des scènes de combat, des scènes de vie quotidienne. Voilà ce qu'on peut trouver dans ces portails-là. Et d'un portail à un autre, on trouve plus ou moins un thème ou l'autre, ou parfois des thèmes sont mêlés.
Donc plongeons-nous dans une de ces histoires peut-être maintenant.
Alors, il y aurait deux possibilités, soit le cycle de la création au portail des libraires de Rouen, qui est très intéressant.
Le portail des libraires qui est sur la cathédrale de Rouen.
Oui, d'accord, oui, vous avez raison de le préciser, effectivement, qui est très intéressant parce qu'il réagit avec le reste du portail, mais c'est peut-être pas le cycle de la création, donc Adam et Ève, hein, pour faire simple, est assez classique. Ce qui est peut-être plus intéressant là pour nous, c'est le cycle qui raconte la vie et les miracles de l'évêque abbé Saint-Ouen de Rouen, donc à l'abbaye Saint-Ouen. Pourquoi ? Parce qu'on a finalement un cycle très développé, 40 scènes sculptées juste pour un évêque à l'époque, même saint, c'est énorme. Et ce cycle, en fait, montre une grande diversité de scènes de la vie du saint. Et à un moment, ce saint meurt. et le cycle se poursuit. Donc il se poursuit toujours avec la même représentation, l'évêque, mais l'évêque est mort. Donc il se poursuit avec la représentation de ces miracles. Et là on retrouve une distinction assez classique dans la littérature hagiographique, c'est-à-dire la littérature des saints, et au contraire les recueils de miracles. Donc sur le même cycle, on a une illustration ou des représentations qui viennent de sa vie, et après on a évidemment ces miracles. Et pourquoi montrer les miracles post-mortem, c'est-à-dire après sa mort, et on montre plus d'ailleurs que la vie elle-même, et ben on montre finalement toutes les capacités du saint à guérir, à produire des miracles. Donc on est en train de dire aux éventuels pèlerins, venez, venez, notre saint est très puissant et il continue de l'être. Il est mort il y a plusieurs siècles, mais il continue de faire des miracles. La preuve, et on les sculpte sur justement ce portail qui est au seuil. Donc ce portail qu'on va franchir, on va voir ces miracles avant d'aller dans l'abbaye.
Jolie histoire. Donc il trahit aussi le fait que ces portails ne sont pas sculptés au hasard, on ne choisit pas ces motifs au hasard. Et là, quelque part, vous sous-entendiez que c'était une façon de faire la publicité du sanctuaire, presque.
Enfin, j'ose même dire propagande.
Oser propagande, si vous voulez. Alors, premier point, avant de revenir peut-être sur un exemple, qui commande en général, qui choisit ce qu'on représente au portail d'une cathédrale?
La question, vaste question, puisque malheureusement les sources peuvent donner le contexte de la commande. Et dans le cadre d'une cathédrale, c'est un équilibre complexe entre l'évêque ou archevêque, là on parle plutôt d'archevêque dans le cadre de Lyon et de Rouen bien évidemment, et ses chanoines. L'église appartient aux deux. Donc la commande et la création, l'édification d'un nouveau portail par exemple à Rouen en 1281 se fait après un marché, mais un marché au sens juridique, de chartes qui vont permettre à l'évêque de donner du terrain pour ce portail et qui vont permettre aux chanoines de récupérer des maisons en échange. Donc on a là un accord pour construire un nouveau portail. Par contre, on n'a rien dans les textes pour dire clairement qui choisit quel type de programme iconographique.
D'accord.
On a parfois mention dans les comptes de tant de statues, parfois on a quelques noms de statues, quand c'est le Christ ça peut être mentionné, la Vierge aussi, mais dans le cadre de ces bas-reliefs quadrilobés, rien.
Tout de même, ils répondent à des objectifs qu'on peut tenter de deviner, ces bas-reliefs quadrilobés. Est-ce qu'il y a une volonté pastorale, disons, édificatrice? Quelque part, ça commence avec le moment des ordres mendiants, qui sont ces moines qui vont se mettre sur la place publique, qui vont prêcher l'exemple, l'exemplum. Et vous osez même le terme d'exemplum sculpté pour parler de ces bas-reliefs. Alors, pastoral ou pas?
Pastoral ou didactique, c'est des termes qui sont souvent employés, qui j'aurais des réticences à les employer d'emblée, puisque ça amènerait rapidement à faire croire que, comme on le lit parfois ou comme on l'a lu, que les portails sont des bibles de pierre. J'ai tendance à dire que c'est un petit peu plus complexe, ou que si cette dimension didactique, c'est-à-dire s'il s'agit d'apprendre la Bible, ça me plaît pas, mais plutôt de représenter des scènes hagiographiques ou bibliques, il existe aussi d'autres dimensions. Donc, en aucun cas, on peut se cantonner à cette fonction-là. Et la bonne et simple raison, c'est que pourquoi dépenser tant s'il n'y a que cette raison-là? Est-ce que le seul souci pastoral justifie de tels investissements à la fin du XIIIe siècle à la cathédrale de Rouen? Les autres cathédrales ont réussi à faire autrement.
Et donc, le motif?
Une politique de prestige qui est mise en œuvre par un prélat qui arrive. À chaque fois, tout ceci correspond à un nouvel évêque, un nouvel abbé, un nouveau pape. Et à chaque fois, donc, on décide d'afficher une monumentalité dans un terme de concurrence. Donc l'abbé de Saint-Ouen, c'est la concurrence avec la cathédrale de Rouen, vous l'aurez compris. La cathédrale de Rouen, c'est la concurrence avec Notre-Dame de Paris. La cathédrale de Lyon, c'est pas la concurrence, mais là, c'est la volonté de rattacher visuellement Lyon à la France qui compte à l'époque.
On rappelle que c'est d'ailleurs l'anniversaire de l'annexion presque de Lyon à la France.
Du rattachement, du basculement.
1312, 700 ans.
Oui, 1312 justement, c'est le moment où Pierre de Savoie est archevêque, et c'est le moment effectivement où il reconnaît juridiquement la souveraineté du roi de France. Et c'est exactement le moment aussi où ce cycle sculpté se met en œuvre, a priori, et ce cycle sculpté de la cathédrale Saint-Jean de Lyon rattache explicitement la cathédrale au standard, si on veut utiliser un terme un peu actuel, au standard de l'époque en architecture gothique, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris, certes, mais surtout Rouen. Rouen, on peut m'accuser peut-être de partialité à ce niveau-là, mais Rouen, à mon avis, à l'époque, affiche une monumentalité qui est au moins l'égale de celle de Notre-Dame de Paris, et les richesses de la cathédrale de Rouen, de l'archevêché de Rouen, ne font aucun doute à l'époque. Ils ont les moyens d'afficher près de 200 bas-reliefs au nord et de plus de 300 bas-reliefs au sud. Chaque bas-relief unitairement devait coûter très cher, et il n'y a pas d'obligation d'un tel décor sculpté. Donc c'est vraiment une politique de prestige avant simplement le souci d'éduquer, ou en plus du souci d'éduquer les masses.
Alors, on a dit que les portails trahissaient cette volonté de grandeur, cette volonté de pastorale quand même, mais ils trahissent aussi d'autres éléments de la culture visuelle médiévale. Et alors vous vous plongez sur des sujets aussi divers que l'hybridation, la métamorphose, le bestiaire merveilleux.
Et j'y tiens beaucoup.
Alors, ce qui est drôle, c'est que ça trahit aussi quelque part la part du sculpteur, peut-être, dans tout cela, quelque part. Alors, que disent les portails médiévaux de ce que pourrait être l'imaginaire ? Il y a des scènes tout à fait étonnantes. Là, j'ai, par exemple, sous les yeux, un motif de lapin qui se termine en coquillage ou des choses comme ça. Il y a des hybridations de corps. Qu'est-ce que c'est que tout ça ?
Alors, plus que de parler de la liberté de l'artiste, qui est une vaste question que je laisse éventuellement à nos collègues historiens de l'art, il s'agit plutôt de parler de créativité, d'inventivité au Moyen-Âge. Et pour la comprendre, il faut se plonger dans ce qui fait l'imaginaire médiéval, et ce sont notamment les textes de bestiaires, les encyclopédies. Hein, le XIIIe siècle, c'est le siècle des grandes encyclopédies médiévales. Les bestiaires sont nombreux. On puise les racines, justement, de ces images, qui sont des images là sculptées, mais qui appartiennent à ce qu'on peut appeler l'imago, c'est-à-dire aussi bien des représentations qui vont être mentales, littéraires, figurées. On puise parfois dans l'Antiquité, parfois dans des influences plus orientales. Le lièvre qui sort d'une coquille, le lièvre est un motif qu'on peut rattacher à la lâcheté, d'un point de vue symbolique, sans doute, mais aussi un motif de la coquille qui se retrouve aussi bien dans l'Orient ou dans certaines représentations antiques.
Et donc sur cette question du bestiaire, qu'avez-vous constaté ? Y a-t-il une particularité du motif, ou y a-t-il des...
Alors, ce qui fait quand même la grande spécificité et le grand intérêt du portail des libraires de la cathédrale de Rouen, le portail nord, c'est l'extrême créativité qu'on y voit à l'heure actuelle. Il a été restauré en plus il y a quelques années, je vous conseille vraiment le détour. On y voit une gamme d'hybrides absolument incroyable, avec là des scènes de d'hybridation. La description, c'est de dire que c'est hybridation, moitié homme, moitié homme, un centaure, des choses comme ça. Donc c'est du classique, mais on trouve aussi des choses beaucoup plus compliquées, où on a une hybridation qui est partielle, qui vient par la tête, par un sabot qui pousse dans un coin. On a une image notamment où on a un homme a priori qui est en train de se regarder dans un miroir, et il est tellement absorbé par justement la contemplation de lui-même dans le miroir qu'il ne voit pas qu'un sabot commence à lui pousser. Donc là, évidemment, on est dans une image très forte d'un point de vue symbolique, dans un contexte qui rappelle par ailleurs la luxure, qui montre justement que l'autocontemplation de soi est un vice qui peut amener à une forme d'animalisation. Et quelques scènes plus loin, on voit des animaux, des singes par exemple, qui ont la même position hein, de se regarder dans un miroir. Donc là, le parallèle se fait assez facilement.
Au seuil des cathédrales, donc, se mêlent, selon la formule de Jacques Le Goff, qui convient tout de même de citer, merveilles
Absolument.
Et horreurs, comme on a pu le voir. À l'entrée de la cathédrale, l'homme médiéval est plus que jamais spectateur, dirons-nous peut-être. Spectateur à l'écoute de la pastorale chrétienne, quand même, quelque part.
Vous y tenez.
Attentif aux récits édificateurs qui peuvent lui être proposés. Vous préférez cette version-là, peut-être. Spectateur aussi de l'action de ses commanditeurs, qui se mettent en scène au même moment où ils mettent en scène leur sanctuaire et qui rivalisent. Et spectateur enfin, et peut-être surtout, de l'extraordinaire inventivité de la sculpture médiévale, qui, au sein d'un cadre qui pourrait sembler de prime abord particulièrement restreint, laisse place à l'imaginaire médiéval. Merci beaucoup Franck Thénard-Duvivier d'avoir accepté notre invitation. Et ainsi s'achève donc notre 22e numéro de 20 minutes d'histoire. Par ailleurs, nous vous l'avions annoncé déjà, Du 19 au 21 octobre, Transistor était au rendez-vous de l'histoire de Blois en compagnie de l'équipe de transmission et nous vous proposerons dès mercredi prochain le premier épisode d'une série d'émissions consacrée à des vies de paysans de l'Antiquité grecque à nos jours, en compagnie entre autres d'Emmanuel Leroy-Ladurie, de Maurice Sartre, de Jean-Marc Morisseau, de Valérie Hanin et de bien d'autres. Restez branchés et à bientôt sur les ondes de Transistor.